Bonjour, j'ai le plaisir, avec mon coprésident Mark Weinberg, d'ouvrir cette séance très spéciale qui portera sur les 25 ans du sida, depuis les 25 ans depuis qu'on a décrit les premiers cas de sida. Cette séance va regarder la contribution de la science, de la politique, des programmes et des personnes vivant avec le VIH et le SIDA en réponse à cette pandémie. Alors, j'ai le plaisir avec Marc de vous accueillir et je vais maintenant demander à Marc de dire quelques mots. Nous sommes tous ici ensemble, 25 ans après les premières descriptions de cas d'infection VIH sont sorties. Nous reconnaissons que nous avons beaucoup de chemin à faire, mais nous reconnaissons que les années à venir vont sans doute nous rapprocher de nos rêves d'offrir des médicaments meilleurs et moins coûteux pour traiter les personnes atteintes, mais surtout que nous allons réussir à assurer un accès au traitement médicamenteux du VIH à toutes les personnes dans le monde sans égard à leur capacité de payer. Et je vais maintenant demander à Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, qui va présider cette séance. Merci beaucoup, Marc Lana. Bonjour, merci d'être venu pour ce qui va être une séance importante, mais peut-être la séance la plus importante de ce congrès. Alors, restez s'il vous plaît, ne quittez pas. Nous sommes à mi-chemin du congrès, nous avons fêté, nous avons manifesté, nous avons hurlé, pleuré, applaudi et nous sommes étonnés de ce que nous avons entendu. Mais maintenant, nous allons devenir sérieux parce que nous avons des questions sérieuses à nous poser à propos de ce que nous faisons. Comment se fait-il que nous n'utilisons pas ces réunions extraordinaires davantage comme des mécanismes de reddition de comptes pour nous obliger tous et chacun à rendre des comptes de notre rôle dans la lutte contre le VIH et le SIDA et pour fixer des objectifs spécifiques et mesurables pour les deux prochaines années. Comment se fait-il que nous continuons à ignorer les questions sanitaires, économiques, sociales et humaines plus larges du VIH et du SIDA en disant que c'est un problème de santé, une crise de la santé et non pas une crise de l'humanité, une crise humaine? Comment se fait-il qu'on continue à parler? Pourquoi est-ce que nous n'engageons pas le dialogue direct avec les personnes qui vivent avec le VIH et le SIDA? Comment se fait-il que l'Afrique demeure si marginalisée dans nos discussions sur le SIDA? Comment se fait-il que notre définition de la science ne s'étend qu'aux expériences en laboratoire et aux essais cliniques? Pourquoi voyons-nous la biologie, la médecine, l'épidémiologie, les sciences sociales et la politique comme étant des champs mutuellement exclusifs, renforçant ainsi les divisions au lieu de forger de nouvelles alliances? Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas la communauté comme un instrument puissant de changement social? Pourquoi les ONG ne reçoivent-ils pas le crédit qu'ils méritent comme leaders essentiels dans la lutte contre le sida? Au bout de 25 ans, comment se fait-il que des enfants continuent à être ignorés? Et pourquoi est-ce que nous hésitons à reconnaître qu'il n'y a toujours pas un engagement mondial pour déployer généraliser la lutte contre le sida? Nous sommes là aujourd'hui parce que nous allons répondre à chacune de ces 10 questions grâce à la présence de nos conférenciers. Nous allons commencer par Anthony Fauci, directeur de l'Institut national de l'allergie et des maladies infectieuses des instituts nationaux de la santé, poste qu'il a occupé depuis 1984. Et poste auquel il a acquis une perspective unique des défis scientifiques posés par cette pandémie. Merci Richard de cette aimable présentation. Je vous entends, je comprends ce que vous dites et je vais transmettre votre message. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être ici avec vous cet après-midi pour parler d'un aspect de nos efforts dans le monde, c'est-à-dire la réponse de la science au VIH, dans le contexte d'une réflexion sur le passé et sur l'avenir, au bout de 25 ans du VIH et du SIDA. Impossible de le faire dans les 7 minutes qu'on m'a données, mais je vais insister sur un ou deux points et enchaîner avec quelques idées sur l'avenir. Les gens qui étaient là à l'époque, nous n'oublierons pas cette semaine extraordinaire dans l'été de 1981, quand nous avons pris connaissance de l'occurrence inhabituelle de la pneumocystis carini et à Los Angeles et à New York, suivi de quelques indications de syndrome de Kaposi et de pneumonie à pneumocystis carini. Non seulement à Los Angeles, mais à New York. Ce qui est arrivé depuis 25 ans dépasse l'imagination de tout le monde, y compris moi-même. J'aurais jamais pu imaginer cela à l'époque, parce que nous vivons ce qui est sans conteste une des plus grandes pandémies de la civilisation humaine. Vous connaissez les chiffres, je n'ai pas besoin de les répéter, mais qu'en est-il de la réponse de la science? Un chiffre étonnant, plus de 200 000 communications sur le VIH ont été publiées en date du 14 octobre, depuis les deux rapports hebdomadaires sur la mortalité. Et il y a eu des réalisations étonnantes dans le domaine de la recherche, de la science en général, qui vont de l'observation profonde de l'épidémie dans sa forme sans cause. Et puis, on a compris l'agent étiologique. On a commencé à comprendre les différentes tendances de l'évolution de l'épidémie dans certaines régions du monde. Et ensuite, jusqu'au développement des vaccins. Quand on regarde ces réalisations, personne ne peut nier que les événements de 1983-84, la découverte du VIH comme cause du sida par Luc Montagnier et Gallo, ouvert la porte à une série de questions et de réponses scientifiques qui ont transformé notre vision du VIH. Un de ces événements est intervenu à peine un an après la découverte du VIH. Un test sanguin qui a permis non seulement de protéger les transfusions sanguines, mais aussi nous a permis de diagnostiquer une maladie infectieuse qui continue à nous confondre. Et il y a eu d'autres découvertes. Démêlement l'éclaircissement du mystère du virion du VIH. Et même ici, à cette conférence, on continue à apprendre des choses sur le fonctionnement des gènes, le cycle de réplication du VIH, d'abord le récepteur CD4 et les récepteurs des cytokines, qui a permis de comprendre les épitopes qui, aujourd'hui et à venir, continuent à avoir un impact énorme sur notre compréhension des vaccins et la neutralisation des anticorps. Des études réalisées au milieu et à la fin des années 90 pour comprendre les mécanismes de l'infection du VIH, avec sa réplication et son infection de milliards de virions par jour. Et la question fort intéressante de l'établissement de réservoirs qui continue à constituer un énorme obstacle sur le chemin de l'élimination du VIH. Quand on parle de progrès scientifique et les aspects pratiques de la lutte, rien n'est plus important que le développement de traitements efficaces pour les personnes infectées. On a eu d'abord au niveau des cibles les inhibiteurs de la protéase. Et 10 ans plus tard, on a créé les inhibiteurs de l'intégrase qui ont transformé notre lutte, nos moyens d'intervention. Et maintenant, les inhibiteurs de la transcriptase inverse et de la fusion et de l'entrée. Alors, il faut d'autres agents arrivent, mais il faut poursuivre la lutte. Il y a plus de 25 médicaments qui sont approuvés par le FDA maintenant. Il en est de même dans d'autres pays, mais les résultats sont énormes. Si une communication de JAD de la dernière indique que les médicaments et le traitement des maladies opportunistes ont permis de sauver 3 millions d'années de vie aux États-Unis. Mais ce n'est pas assez. Et la raison pour laquelle ce n'est pas assez, c'est qu'une proportion importante du monde ne bénéficie toujours pas de ces progrès scientifiques. Ce diapo dit qu'en décembre, 1,3 million de personnes recevaient des traitements antirétroviraux. 1,6 million ou 25% des gens qui en ont besoin. Donc nous sommes à 75% de là où nous devons être pour ce qui est de donner des médicaments à tous les gens qui en ont besoin. La prévention, le message essentiel ici, c'est que la prévention n'est pas unidimensionnelle. Il n'y a pas une composante de la prévention qui va solutionner notre problème. Il faut des seringues proc et les programmes d'échange de seringues, la circonscription, la distribution de condoms, les microbicides topiques et d'autres moyens. Il est impossible de dire qu'il y a un seul moyen de régler le problème de la prévention. Dans la minute qui reste, qu'en est-il de l'avenir? Il y a des défis scientifiques clés. La persistance des réservoirs viraux. Je travaille là-dessus dans mon propre laboratoire depuis des années, qui nous empêche d'éradiquer le VIH. Ça va être un défi pour les prochaines années. Les premiers événements de l'infection VIH, surtout les implications sur le viscère, le principal organe lymphoïde, la nouvelle cible pour les médicaments et évidemment les microbicides topiques et les vaccins. Je dois passer quelques instants à parler des microbicides parce que, comme vous le savez, les VIH et le sida revêt de plus en plus un visage féminin. Et nous devons répondre aux besoins particuliers des femmes et leur permettre de se protéger si leur partenaire ne porte pas le condom. Et l'abstinence est dans bien des cas tout simplement pas réaliste. Les ressources de l'avenir vont être de plus en plus tournées vers les microbicides. Le vaccin est la prochaine frontière. Et notre capacité de créer des vaccins soulève des problèmes scientifiques fondamentaux que nous n'aurons pas le temps d'élucider. En résumé, les découvertes de la recherche scientifique des 25 dernières années coupent le souffle par leur ampleur et leurs implications. C'est le point de départ d'une application à la recherche, au traitement et aux soins. Mais nous devons en même temps comprendre que l'histoire va nous juger comme communauté internationale par l'utilisation que nous faisons de ces progrès scientifiques dans les 25 années à venir, autant que par ce que nous avons réussi à faire dans les 25 dernières années. Merci.
Merci, Tony. Maintenant, nous allons continuer avec Peter Piot, directeur exécutif de Donu Sida depuis 1994. Il est un scientifique incroyable, et il a travaillé en Afrique pour donner l'expérience de première main sur le rôle des couloirs vides des Nations Unies. Donc, Peter, viens nous adresser la parole. Merci Richard et bonjour à tous. C'est juste de dire que dans 25 ans, le sida est devenu un des problèmes dévastateurs de notre époque. Maintenant, c'est dans une ligue complètement différente. C'est la ligue du changement mondial, le changement climatique, la pauvreté massive, de conflits armée. Et puis c'est une maladie que nous n'avions même pas entendu parler il y a 25 ans. C'est la première cause de mort pour les hommes et les femmes qui ont moins de 16 ans, 60 ans dans le monde. Il n'y a pas de précédent pour ceci dans notre histoire. L'histoire du sida, c'est également une histoire de mondialisation. Mais pas la mondialisation des marchés et des profits, mais c'est une mondialisation d'une épidémie. Et ça dit l'histoire de la mondialisation du comportement humain et des réseaux humains, parce que tous les individus qui vivent avec le VIH sont individus avec tous les autres qui vivent avec le VIH. Et ça, c'est l'importance existentielle des gens qui vivent avec le VIH, je crois. Si vous regardez la propagation du VIH-SIDA, je vais vous montrer trois diapositives. La première, ici, vous voyez là, comment en 1985, c'était surtout l'Afrique centrale où nous voyons la prévalence de VIH-SIDA, mais c'était encore moins de 5%. 10 ans plus tard, regardez ce qui est arrivé. C'est allé de l'Afrique du Sud au central à travers le monde. Et vous pouvez voir même au début avec le sida, certaines années plus tard, presque tous les pays avaient fait des rapports de gens qui vivaient avec le VIH ou des cas de sida parce qu'il n'y avait pas de test pour le VIH. Mais l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est typique où en 85, il y avait très peu de personnes avec le VIH. 10 années plus tard, c'était une des parties les plus affectées au monde. Et si vous continuez avec la mondialisation au 21e siècle, maintenant, c'est une épidémie explosive, en particulier dans les pays de l'Union soviétique, de l'ex-Union soviétique et en Asie également. Donc dans l'histoire de la mondialisation, d'un échec pour contrôler une épidémie dès le départ. Lorsque nous regardons au même temps la croissance du nombre de personnes qui vivent avec le VIH et la réponse à ceci, les réactions en ceci, vous voyez que dès le départ, la réponse était d'une certaine façon, c'était des découvertes scientifiques, comme nous voulons de voir avec Tony. Et les causes furent identifiées avec les tests sanguins et les réponses communautaires, c'était les premières preuves. Et la communauté homosexuelle a indiqué que ça, c'était vraiment un problème que nous pouvions contrôler si le monde est là pour nous aider. Et ceci est arrivé dans le monde occidental. Le réseau mondial de gens qui vivent avec le VIH était en fait fondé avant les organisations mondiales qui étaient créées en 86. Le programme mondial sur le sida avec Jonathan Mann. Et l'importance de Jonathan dans sa réponse au sida, c'est son emphase que nous devons voir cette réponse du point de vue droit de la personne et pas dans une quarantaine classique dans la réponse à ceci. Il a vraiment indiqué ceci et c'était un exemple pour les années à venir. Le programme mondial pour le sida s'était créé dans un moment où il y avait beaucoup de déni, en particulier dans l'Afrique. Ça, c'est de la première rencontre que l'OMS a fait en 86. Vous pouvez voir là Jonathan Mann, plus certains autres membres du projet SIDA à Kinshasa, ce qui a identifié la plupart des éléments qui sont encore vraiment ce qui est essentiel dans l'Afrique du Sud. L'épidémie, après la création de GPA, du programme mondial sur le sida, continuer à se propager. Puis ce que vous voyez, c'est plusieurs choses. Vous voyez la courbe inférieure, là, c'est la troisième vague de l'épidémie. La première, c'est l'infection de VIH. La deuxième, c'est les gens qui développent le sida. Et puis le troisième, c'est les enfants orphelins à cause du sida, ceux qui commencent à arriver en 90 en tant que problème majeur. Et puis ça a seulement été documenté d'ici la fin des années 90. Ouganda et Thaïlande étaient au début des 90 un des premiers pays qui a développé dans le monde en développement où nous voyons une diminution dans les infections en tant que résultat des programmes menés par la communauté et par le gouvernement. 10 années plus tard, vous avez vu que HART a été découvert pour la première fois à Vancouver et puis dans mon discours, dans la cérémonie d'ouverture là-bas, j'avais déjà dit que j'étais inquiet pour ce qui allait arriver aux pauvres dans les pays moins fortunés. Donc, c'est juste quelques années plus tard que le Brésil a commencé en tant que le premier pays en développement à offrir la thérapie antirétrovirale à tous ses citoyens gratuitement. C'était une décision courageuse dans un moment où il n'y avait même pas un bailleur de fonds qui était en faveur de la thérapie antirétrovirale, avec l'exception de la France, je devrais dire, et où nous étions à une baisse, un des points les plus bas dans notre historique. Et ça, ça a changé en 2000. Ici, vous voyez une courbe avec les ressources disponibles pour le SIDA entre 1986 et 2005, donc l'année dernière. Donc ce que vous voyez, c'est vraiment une accélération après 2001, après la séance spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies avec la création du Fonds mondial de PEPFAR et une augmentation dans le financement disponible. Ça, c'était uniquement possible à cause du travail sur le terrain qui a été fait dans les années précédentes. Et ça, c'est une leçon pour les prochaines 25 années également. Les éléments clés, je crois, étaient le fait qu'en particulier en Afrique, le leadership a commencé à reconnaître que le SIDA a un effet sur l'économie, ça a un effet sur la société, et que les leaders étaient personnellement affectés également, parce que jusqu'à présent, c'était les recherches des pays développés qui attirent l'attention au SIDA. Deuxièmement, le débat dans le Conseil de sécurité de l'ONU et dans la science générale de l'ONU a été un problème qui s'est érigé des représentants au cet état. Et puis nous avons eu un autre changement en Durban. J'ai demandé d'aller de M à B, de million à milliard. Donc j'ai reçu des appels téléphoniques des fonctionnaires dans les agences de développement en disant que quelqu'un de ma position ne devrait pas prendre ces décisions et puis que l'argent n'est pas là. Mais aujourd'hui, nous sommes à 8,3 milliards de dollars, ceci étant dit. Maintenant, avant de conclure, j'ai deux choses à dire. Pour les dernières années, nous avons fait plus de progrès dans les pays en développement en ce qui concerne la réponse au SIDA par rapport aux 20 années précédentes. Les faits sont là, nous voyons un déclin dans les infections parmi les jeunes femmes et puis dans plusieurs pays, en Afrique, certains pays asiatiques, certains États asiatiques et dans les Caraïbes également. Nous avons un côté 1,6 million de personnes qui ont la thérapie antirétrovirale. Bien sûr, ce n'est pas assez, mais il y a des vrais résultats. Et avec des vrais résultats comme ceci, nous voyons que c'est possible. Il y a des choses positives qui sont surgies, puis nous devons reconnaître ceci. Et ça montre que nous pouvons inverser cette épidémie. Donc on peut juste deviner ce qu'on aurait pu faire si les milliards étaient disponibles il y a 10-20 ans. Donc je crois que certains milliards, avec plusieurs milliards de dollars, on aurait pu arrêter cette épidémie. Et puis voilà, ce serait la fin. Ça illustre l'importance d'agir vraiment dès le départ et de bâtir la volonté politique. Et en conclusion, pour les prochains 25 ans, comme j'ai dit à la cérémonie d'ouverture et également à la première page de ce livre rouge, le défi fondamental duquel nous faisons face, c'est d'avoir une réponse de pleine échelle pendant encore une autre génération. Et espérons que pas plus que ceci. Ceci va exiger le leadership, le financement, faire que l'argent marche, les changements sociaux. Nous devons travailler un petit peu sur ceci. Et puis les recherches et développement scientifiques. Pour les années à suivre, il y aura beaucoup de points importants. Est-ce que nous devons être sur la vague des petites réussites ou est-ce que nous devons nous donner pour vaincus? Donc, ce sera important pour les prochaines années, au moins, de maintenir l'exceptionnalité du SIDA, mais de faire le lien avec les agendas de développement essentiels, pas à l'extérieur. Et les années à suivre vont être importantes et ça, c'est ce que je crois devrait être ce qui est essentiel dans nos discussions. Merci beaucoup. Merci, Peter. Donc, Monsieur Broadbent est le directeur d'IDEA et de Friends.
Elle a été diagnostiquée avec le VIH quand elle avait 3 ans. On lui a dit qu'elle ne vivrait pas plus longtemps que 5 ans. On a vu que par la suite, elle est devenue impliquée dans le militantisme pour le VIH. Tout à cause des gens qui vivent avec le sida. Et aussi d'aider les jeunes à la façon d'éviter des comportements à risque. Et nous sommes heureux que votre médecin se soit trompé et que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Bienvenue à cette conférence. J'ai commencé à parler à l'âge de 4 ans. J'étais une patiente à l'hôpital et plusieurs de mes amis n'ont pas dit à leurs parents que j'étais infectée. Et je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Moi, j'étais très ouverte, je ne cachais jamais rien. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler, parce que je voulais que tout le monde soit traité comme il devrait l'être, avec respect. Maintenant, je parle aux jeunes, surtout de mon âge, sur les mesures de précaution pour avoir des relations sexuelles en toute sécurité. Et je veux que tout le monde, surtout les parents, je vous invite à parler à vos enfants. C'est la chose la plus importante quand vous parlez du sida. C'est la communication, parce que sans cela, les enfants vont rester dans le noir. Et si nos parents ne nous parlent pas, et que nous parlons à nos amis, la plupart du temps, nos amis ne savent pas ce dont ils parlent. Alors donc, c'est important pour nous de savoir ce qui se passe. N'essayez jamais de cacher quoi que ce soit de vos enfants, surtout en matière de sexualité. Parce qu'on écoute la musique, on regarde les vidéos, on regarde la télé. Le sexe est partout, on ne peut pas s'en cacher. Parlez donc à vos enfants. Je crois qu'il est important que tout le monde sache que les enfants représentent l'avenir et que si nous ne sommes pas éduqués, je ne crois pas que l'avenir soit très brillant. On m'a dit, mes parents, on a dit à mes parents quand j'avais 3 ans, le médecin a dit à mes parents que je ne vivrais pas après l'âge de 5 ans. Je suis maintenant au collège, je vais me marier un jour, j'aurai des enfants, j'ai un avenir. Mais je ne saurais pas que j'avais un futur si mes parents ne m'avaient pas éduqué, si mon médecin ne m'avait pas éduqué. Alors, si vous avez une voix, utilisez votre voix pour éduquer la personne à côté de vous, parce que il est important que tout le monde sache ce que l'avenir représente pour quelqu'un qui vit avec le VIH-Sida. Merci. Merci. Merci beaucoup. Greg Gonzalez est le coordonnateur du centre de traitement de coordination pour la documentation sur le sida en Afrique du Sud. On lui a dit, lui-même vit avec le sida depuis 1990, il va vous donner en 7 minutes sa perspective sur les 25 années à venir. Bon après-midi tout le monde. Je vais essayer de faire cela rapidement. Pierre avait dit au New York Times que 2005 était la moins pire des années du sida depuis son inception. Mais je vous dis qu'il y a 3 millions de personnes qui sont mortes l'année dernière, 500 000 enfants. Et c'est en fait la pire année pour ceux que nous avons perdus. Je ne peux pas en quelques minutes vous raconter tout ce qui s'est passé autour des 25 dernières années. Tout d'abord, je vous référer à un livre qui n'a rien à voir avec le sida. C'est un livre d'Alex O'Wolf qui s'appelle Famine and Crime. Il parle de la famine et démontre comment cela est relié au sida. J'en ai parlé il y a bien longtemps à Bangkok, il y a 2 ans. Je ne peux pas élaborer. Mais je vais vous parler rapidement du mot de la fin qui est que nous avons créé une infrastructure qui se justifie à soi-même, se satisfait à soi-même, n'est imputable à personne, qui privilégie les pays industrialisés, qui ne permet pas aux gouvernements locaux de prendre leurs propres responsabilités et qui fait la promotion d'aide plutôt que de changement social. Nous avons donc créé un système qui est voué à l'échec. Oui, il y a des hommes, des femmes qui sont des héros ou qui sont oubliés maintenant pour ceux qui ont fonctionné cette machine. Ce n'est pas Bill Gates ou Bill Clinton qui ont fait une différence à cette épidémie, malgré qu'ils aient été accueillis ici comme de la royauté. Ce qu'ils représentent en termes de pouvoir et d'argent nous aveugle à la réalité. Les véritables héros sont des gens comme Christopher Morocco, Paul Kusanakomono, Carlos Condante, Ojeef Kaman, Mark Collins, Scott Letsley, des gens que je ne peux même pas nommer ici, qui ont changé le monde et qui continuent de le faire, souvent à des risques personnels graves, alors que vous regardiez ailleurs et que vous ne saviez même pas qu'ils étaient là. Il nous faut donc réinscrire ce mouvement comme un mouvement de justice sociale et économique. Au nom des autres maladies, comme l'AIDS, la maladie mentale, la tuberculose et d'autres crimes tels que la violence et la pauvreté. Et ceci n'explique pas pourquoi certains d'entre nous tombent malades et d'autres pas. Ce n'est pas une coïncidence si ces multiples épidémies se répandent à travers le monde, parmi les hommes gays, les pauvres, les prisonniers, les migrants. Les politiques socio-économiques qui créent ces conditions nous mènent directement à des épidémies. Et donc, il y a de l'espoir dans des programmes de prévention qui vont apparaître, une nouvelle technologie qui pourra nous sauver, mais même si nous travaillons très fort sur la prévention, comme Madame Gates, il faut changer les structures économiques et environnementales qui permettent à cette épidémie de se répandre, parce que d'agir là-dessus est au-delà de la charité et au-delà de la politique. Cela m'amène à la politique. Il nous faut repolitiser le sida. Mes collègues en Afrique du Sud, Kevin de Kock, New York, qui ont représenté la position que nous avons médicalisé et politisé le sida. Il nous faut donc réexaminer le dépistage du sida. Et alors qu'il y a le fait qu'il y ait de millions de personnes qui meurent sans même connaître leur statut de VIH est inacceptable. Et donc d'intégrer le dépistage du VIH dans des systèmes de santé, de dépistage routinier, et d'avoir une approche envers tout l'aspect de santé basé sur un meilleur dépistage du VIH. Ceci est pour éviter que nous ne devenions des patients, des victimes. Aucun médecin n'aime des patients qui leur pose des questions, mais il faut prendre position, il faut demander une amélioration et remettre le sida dans le royaume de la médecine où les solutions ne sont que biomédicales. Il faut aller plus loin que cela. Tout comme toutes les autres maladies qui affectent notre société, alors que nous recherchons la santé pour tous en tant que droit de la personne, pour chaque personne. Je sais qu'il est dur d'exiger ces droits, mais il faut le faire. Nos gouvernements, ce qu'ils font, ils ne font pas pour les gens avec... Nous avons les maladies, les médicaments pour lutter contre le sida. Nous avons des moyens de contrôler la propagation du virus, mais nous n'avons pas la volonté politique pour le faire. Il y a trop d'excuses encore. À part pour les cris de quelques militants très braves, la plupart des gens qui sont affectés par cette maladie ne se sont pas levés pour demander leurs droits et dire au gouvernement que c'est leur obligation. Les exemples d'Afrique du Sud ne représentent qu'un petit exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a des millions de gens à travers le monde qui demandent une action et qu'il n'y a pas de réponse? Je sais que certains d'entre nous travaillons dans des endroits où, vivons dans des endroits où l'action politique est difficile, mais c'est important. Et il y en a qui ont la ressource et la possibilité de changer les choses sont aveugles à l'étendue de l'épidémie. C'est en fait une crise politique. Nous avons décidé de le faire parce que nous sommes complices avec les pouvoirs existants. Nous sommes dans un moment terrible, antipolitique, où les pouvoirs existants nous ont dit que tout va bien, nous sommes de votre côté, vous pouvez démobiliser et nous laisser nous occuper de ce problème. C'est là le message pernicieux de cette conférence. N'en croyez pas un mot. C'est la pire année de l'épidémie pour plusieurs d'entre nous. La question est de savoir si nous allons faire une promesse ici, comme mon héros Rousseau l'a fait en 1988, il a dit « Nous sommes si occupés à éteindre les feux que nous n'avons pas le temps de se parler, d'établir des stratégies et de planifier la prochaine journée, le prochain mois, la prochaine année. » Et il va nous falloir trouver le temps de faire cela au cours des mois à venir et de nous engager à le faire. Et puis après, quand on aura battu cette maladie à mort, il faudra aussi nous tourner et démembrer ce système politique une fois pour toutes.
Merci beaucoup, Greg, pour ceci. Elisabeth Madra est la directrice de programmation du programme de contrôle de SIDA pour le ministère de la Santé à Ouganda. Elle est là avec le service public d'Ouganda. Elle était là en 80 et puis elle a plus d'expérience que tout autre conférencier et beaucoup de personnes dans cette salle sur la menace du SIDA dans un continent qui est le plus en péril à cause de cette pandémie. Elisabeth, nous sommes ravis que vous soyez arrivée ici, même si vous deviez passer par Londres, par Internet.
Thank you very much.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir invité pour parler à cette conférence, à cette séance spéciale en train de regarder les 25 ans de cette épidémie et en faisant une rétrospection de ceci, en particulier en regardant les pays qui ont eu un développement rapide à cette réponse, à cette épidémie. Dans mon introduction, en fait, je vais me concentrer sur la présentation sur l'Ouganda en tant qu'un pays qui a démarré d'avance, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire référence à d'autres pays en Afrique. Il y a des comparaisons qui seront faites avec d'autres pays qui ont déjà commencé à répondre à l'épidémie comme l'Ouganda, comme le Sénégal. Et ensuite, dans les pays de l'Est de l'Afrique qui ont répondu également à ceci, comme le Kenya, la Tanzanie et également certains des pays à l'Ouest de l'Afrique. Et je vais essayer également de parler un petit peu des éléments centraux, des réponses, des réactions, parce que nous devons voir vraiment d'où est-ce qu'on a commencé et puis qu'est-ce que nous avons fait, les réussites que nous avons eues et qu'est-ce qui est arrivé et quelles seraient les choses que nous devrions faire à l'avenir. Donc, en tant qu'élément à la réaction rapide, nous avons un haut niveau d'engagement politique et de support politique dès le départ. Un pays comme Ouganda où le support politique a vraiment aidé le pays à s'en sortir, mais ça a également pris du temps. Parce que si nous regardons quand est-ce que l'épidémie, quand est-ce que les cas du sida étaient diagnostiqués en Ouganda en 2002, ça veut dire il y a 5 ans, avant de voir les cas du sida, ça aurait été pendant le moment de l'épidémie, mais dans les pays de l'Est de l'Afrique, y compris l'Ouganda, on avait ce silence. Personne n'a parlé sur ceci jusqu'en 86, où on a eu le changement de gouvernement, et c'est là où la réponse était vraiment satisfaite immédiatement. Et puis je me rappelle pas de quand est-ce que c'était que le ministre d'Ouganda a mentionné que le VIH-SIDA c'était un Ouganda, ils ont dit que c'était une tragédie, un tabou. Mais bien sûr, avec les interventions, nous sommes concentrés sur la sensibilisation et basés sur les interventions qui sont développées avec le Fonds mondial du SIDA, pas vraiment spécifique au pays. Il y avait également, on s'occupait vraiment du changement de comportement. Les gens devaient changer. Et ici, nous regardons si ceci devrait être fait en tant que processus. Et ensuite, il y a eu les consultations. Parce qu'il n'y avait pas de traitement, les gens mouraient, les gens étaient stigmatisés. Et un des pays qui a répondu au suicide, encore une fois, Ouganda, avec la formation de l'organisation de soutien pour les gens qui étaient affectés du sida. Donc, et bien sûr, à cause de cette épidémie qui regardait les problèmes liés à la santé, la plupart des programmes de VIH-SIDA étaient dans le secteur de santé. Puis ça, c'était sur le programme national sur le sida. Et bien sûr, plus tard, nous devions regarder les différents éléments centraux de la réaction nationale. L'approche multisectorielle a commencé, la mise en œuvre de la décentralisation, les partenariats publics et privés, puis l'implication de gens qui vivent avec le VIH-SIDA, et puis l'ouverture, la transparence politique et l'efficacité des mécanismes de coordination. Donc, comme ça, nous pourrions voir comment nous pouvions atteindre, avec ce programme de vision, nous pourrions vraiment essayer de lutter pour cette épidémie de manière égalitaire. Donc, les réussites sont arrivées pendant un bout de temps à cause de toutes les stratégies qui furent développées. Nous avons vu un déclin dans les tendances de VIH en Ouganda, d'autres pays comme la Zambie ont commencé à faire des rapports, et le Sénégal également, suivi par d'autres pays. Les engagements des leaders africains ont été montrés jusqu'à un certain point, et puis également, avec le temps, nous voyons tous ces engagements qui commencent à vraiment se détendre. Nous avons vu l'adhérence. Est-ce que c'est les louanges, car nous avons fait un bon travail, ou c'est quelle aurait été la raison pour laquelle nous avons fait ceci? Nous voyons pendant les derniers 3 ans, l'Ouganda a déjà été très stagnant également avec ce déclin. Et nous sommes à 6,4% avec de la population générale. Nous avons également un niveau stagnant de 6,5. Il y a plus de pays qui ont des tendances négatives. Donc ça veut dire que quelque chose est en train d'arriver. L'épidémie est stagnante en Afrique, et vous pouvez voir d'après les présentations que l'Afrique a encore la marre de l'épidémie. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites. Donc il faut maintenant changer les stratégies. Il doit y avoir des groupes différents dans la population qui sont affectés et qu'il faut vraiment adresser. Le problème des sexes a été adressé. Nous devons adresser ceci, la violence qui arrive, le groupe d'âge. Vous voyez les jeunes qui ne sont pas bien budgétés, et puis ils sont niés l'information, ils ne sont pas... on ne leur parle pas sur les condoms, le sexe, la sexualité dans certaines administrations, en particulier dans les écoles. Ceci doit vraiment changer. Nous avons des conflits, nous n'adressons pas ceci à travers les conflits. Puis il y a tellement de différents endroits où c'est vraiment affecté à cause des conflits. Donc il y a également des gens qui sont dans ceci. Puis nous devons parler du niveau de ceci. On nous a déjà montré ceci. Puis augmenter l'affection parmi les femmes, c'est également lié à leurs avoirs. Et puis ça, ce sont de nouveaux problèmes. Les problèmes sexuels, l'utilisation de condoms qui est encore bas, devra être promue. On a un manque de contrôle des différentes méthodes pour les femmes, et puis ça a été bien articulé dans cette conférence. Le problème des microbicides qui a vraiment été discuté. Malgré tout ceci, nous devons également voir le problème de ces couples. Ça, ce sont des choses qui vraiment surgissent et qui ne sont pas adressées. 50% de ceci est vu en ce moment en Ouganda. Donc, ces couples également, c'est une autre menace. Donc, nous devons également avoir le problème de STI. Nous ne parlons plus d'infections transmises sexuellement. En fait, ça devient également une menace. Je dis les facteurs dirigeants de l'épidémie. Le problème du VIH également, qui est également vu en tant qu'une menace, n'adressons pas ceci. Nous regardons uniquement les hétérosexuels, l'abus de ceci, puis également les travailleurs de sexe. Et puis ça, c'est là où nous devons adresser ceci. Et puis bien sûr, quelle devrait être la façon de regarder les choses vers l'avenir? La meilleure façon d'agir vers l'avenir, ce serait des stratégies basées sur le pays et basées également sur les forces motrices de l'épidémie par rapport au pays. Nous ne pouvons plus développer des stratégies qui sont universelles. Les pays doivent identifier les forces motrices de leur pays et puis doivent développer un plan stratégique basé sur les forces motrices de cette épidémie. La stratégie ABC, c'est encore pertinent, mais ceci ne veut pas dire qu'il ne faut pas ajouter d'autres problèmes. Nous devons promouvoir les consultations. Également, nous devons continuer avec les testings et puis les conseils. Puis cette épidémie ne va jamais terminer jusqu'à ce que nous puissions adresser ceci de manière égalitaire. Ça ne devrait pas avoir l'air à l'épidémie africaine, ça ne devrait pas avoir l'air à l'épidémie de l'Europe de l'Est, ou ça ne devrait pas avoir l'épidémie de l'Asie. Au moins que nous puissions adresser également cette épidémie, qu'est-ce que nous contrôlons en Europe? Si l'Afrique demeure encore, c'était donc l'épidémie ne sera jamais vaincue. Donc merci beaucoup pour votre attention. Il nous reste un quart d'heure pour avoir des discussions. Et je vais poser une ou deux questions à nos panélistes et voir comment ça va. Mais on va finir à moins quart. Je voudrais commencer, si je peux, avec Hadia. Hadia, tu as parlé beaucoup sur l'inclusion des jeunes dans notre discussion concernant le VIH-SIDA. Dans ton expérience, comment est-ce que nous pouvons tirer la voix des jeunes davantage? Je crois que c'est important pour nous de parler avec eux, pas leur donner des sermons. Plusieurs fois, nous sentons que, vous sentez que les adultes leur disent quoi faire. Et pour les enfants, les gens disent, comment est-ce qu'on peut éduquer les jeunes? Comment est-ce que les jeunes peuvent être plus impliqués dans ceci? Il faut faire des choses qui les intéressent. Avoir une conférence comme celle-ci, mais il faut avoir des gens qui sont des acteurs, des gens qui font du rap, moi je fais des travaux avec la communauté hip-hop parce que leurs paroles sont tellement puissantes dans la musique et pour les jeunes, ils écoutent tout ce qu'ils ont à dire. Donc il faut que les chanteurs, les réalisateurs de rap qui disent oui, je chante sur ceci, mais également je vis une vie positive. Donc je veux dire, les jeunes, ça leur dit quelque chose. Et il faut mettre plus de visages de gens qui ont l'air à eux, qui ont les mêmes intérêts que les jeunes, qui font les mêmes choses pour leur laisser savoir que n'importe qui peut être infecté. Et puis il faut mettre un visage qu'ils peuvent reconnaître envers le sida. Elisabeth, l'avenir de l'épidémie en Afrique va également dépendre sur un engagement de jeunes. Quelle est ton expérience d'engager les jeunes dans un contexte africain? En Afrique, l'engagement des jeunes a été allié dans la réponse à l'épidémie. Nous valorisons les jeunes parce qu'ils sont l'avenir et ils sont les chefs de l'avenir. Et si nous ne les préparons pas et nous ne leur donnons pas les outils pour qu'ils satisfassent leurs objectifs, donc on n'aura pas fait notre travail. On a les jeunes groupes, les jeunes positifs, et ensuite nous avons le groupe de jeunes qui sont en train d'aider, en fait, à s'appuyer les uns les autres, pour travailler avec les groupes de pairs. Et en ce qui concerne l'allocation de ressources, nous essayons également de cibler des programmes qui, en fait, adressent l'épidémie parmi les jeunes. Même jusqu'au point où nous essayons d'introduire l'utilisation de condoms pour les jeunes. Bien qu'il n'y en a pas beaucoup dans les écoles, mais oui, nos programmes ont montré que l'intervention de la part des jeunes a vraiment marché très bien et nous croyons que à l'avenir, nous essaierons également d'introduire l'éducation VIH-SIDA dans l'école secondaire. Mais en ce moment, l'éducation au niveau primaire a des curriculums qui ciblent les jeunes et qui voient les différents aspects d'intervention pour les jeunes, en particulier lorsqu'on regarde la prévention d'infection liée au VIH. Merci. Greg, lorsque vous parliez, vous ne saviez pas que nous étions en train de prendre un sondage dans le public, et même si vous étiez en Afrique du Sud, on vient de t'élire président des États-Unis. Tu commences demain. Que vas-tu faire sur le VIH-SIDA? Vraiment? Et que d'abord, on peut commencer en légalisant les charges légales, et puis on peut se défaire de l'abstinence, mais juste dans les programmes sexe, nous savons que ça ne marche pas. On peut avoir le soin de certains au niveau national, le reste du monde industrialisé. En nous, on n'en a pas de soin comme celui-ci. Moi, Maintenant, je vis en Afrique du Sud, mais aux États-Unis, nous avons un pays qui est en train de détruire ce que nous avons établi sous ce programme. Et puis, nous jetons les pauvres avec les loups. Et si j'étais président, j'honorerais ces conventions basées sur ceci qui m'ont commencé l'épidémie de ceci. J'ai adressé les problèmes de violence contre les femmes, l'épidémie de l'utilisation de drogue et puis d'autres choses que j'ai discutées avec moi. Mais ce n'est pas comme ça que je vois que nous avons géré les gens qui vivent avec le VIH-SIDA et ces maladies infectieuses. Merci. J'espère que vous allez comprendre. Tony, j'ai eu un message qui est venu pour dire que Warren Buffett a changé d'idée sur où il va dépenser son argent. Et il va l'enlever de la Fondation Gates, il va le donner à NAID. Donc, tout à coup, tu as une injection d'argent monétaire. Tu vas le dépenser sur quoi? Merci, Warren. Nous avons un plan de dépenses qui, bien sûr, malheureusement, a été stagnant pendant les derniers 3 ans. Et également le financement de tous les instituts, les diabètes et tous les autres. Donc, il y a plusieurs aspects où il y a encore des brèches. Nous avons besoin d'avoir des recherches sur ceci qui continue à être accélérées. Les microbicides topiques, c'est un autre. Et puis l'autre, c'est les vaccins. Nous devons encore surpasser le problème des vaccins. Je ne crois pas que les vaccins, c'est dans les cartes pendant les prochaines années, mais je crois que ça ne va pas l'être, à moins que nous accélérions nos efforts scientifiques dans cette direction. Et également pour s'assurer que nous ayons beaucoup de bons antirétroviraux, nous avons fait des bons avancements pour aller de 25 pilules par jour à une pilule une ou deux fois par an, par jour. Ça, pour moi, c'est un avancement. C'est mieux. Bon, mais il faut être encore meilleur que ceci. Il faut avoir les inhibiteurs de maturation. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. On peut dépenser l'argent si quelqu'un nous donne l'argent. Alors, Peter, tu es un ambassadeur mondial pour le VIH-SIDA. Pour moi, toi, tu es la conscience de notre communauté. Qu'est-ce qui te garde debout le soir? C'est juste le sida qui c'est la seule raison pour laquelle je peux pas dormir. C'est comme Einstein a dit, vous savez, ce n'est pas assez d'avoir des yeux pour voir, d'avoir des oreilles pour écouter. Et même aujourd'hui, on ne comprend pas tout à fait que le sida n'est pas différent. Moi, je suis très fâché lorsque c'est suggéré que oui, nous allons intégrer le VIH dans tout ce qui est là. C'est un peu le point que Greg a fait et que moi j'ai fait dans mon discours. Et je suis inquiet sur l'avenir à long terme. Ce qui m'inquiète, c'est deux choses sur comment est-ce que nous pouvons nous assurer que tout le monde qui a besoin a l'accès au traitement et que nous avons des efforts de prévention. Alors, mais comment est-ce que nous pouvons nous assurer que d'ici 10, 20, 30 ans, ça ce sera encore le cas? Et nous ne parlons pas de ceci. Je crois qu'on lit le fait que ça, c'est quelque chose à long terme et que nous avons donc besoin de changer certaines des façons d'approcher ceci. Ce qui me garde debout le soir, également ce qui me fâche, c'est où nous avons des preuves scientifiques que ceci n'est pas utilisé. Tony l'a dit, Greg l'a dit, ceci va des programmes de réduction de lésions à la promotion de condoms. Et ce qui me garde debout le soir également, c'est le fait que nous sommes aveuglés par les forces motrices de cette épidémie. Si nous n'allons pas gérer les problèmes de sexe, c'est un peu comme ce qu'Elisabeth a dit. Les forces motrices, les injustices sociales, les problèmes d'inégalité sociale. On n'a aucune chance d'arrêter ceci, même avec un vaccin, parce que le vaccin ne va pas aller. Où est-ce qu'on en a besoin? Donc le défi pour le sida, c'est un qui est politique, social et scientifique. Et nous devons vraiment investir dans les trois. Et ceci n'arrive pas. Il y a bien plus de choses qui me gardent debout le soir, mais je n'ai pas. C'est-à-dire, à chaque fois que Greg m'envoie un courriel, par exemple, quand je reçois un courriel de Greg, je vais donner la parole à nos deux présidents. Hélène, toi, tu as mené la Société internationale du SIDA avec beaucoup d'engagement. Nous avons tous été très impressionnés par ceci cette semaine. Et merci pour vos contributions majeures. Mais lorsque vous nous... Si nous quittez, un nouveau emploi où vous allez mettre la santé dans un contexte mondial plus large. Quelle est le sens que vous allez retirer avec vos moments dans votre cours dans cette heure du jour qui est beaucoup plus large? Et c'est de résoudre vraiment certains des plus grands problèmes au monde, y compris le VIH, mais ça va bien au-delà de ceci également. Merci Richard. Je crois que certaines des choses que certains ont dit, c'est le type de choses que j'espère que je serai capable de travailler dessus. Et le problème de soins et que d'autres agences de développement sont en train de faire, c'est vraiment ces forces motrices. Ce sont les raisons pour lesquelles plusieurs d'entre nous avons fait la santé, puis on a adressé ceci en tant que problème d'inégalité. Il y a un manque d'accès à l'éducation et d'autres services de base, mais il y a également les problèmes, surprenant les problèmes politiques, de bonne gouvernance et d'autres problèmes qui sont tellement critiques pour que nos gens soient responsables pour les besoins de leurs citoyens. Je crois que tous ces problèmes, nous devons vérifier tous ces problèmes. Comment nous donnons le pouvoir aux femmes, mais également comment est-ce que nous assurons que la société reconnaisse l'importance des femmes et le contexte des femmes dans la société. Donc toutes ces choses, ce sont les types de choses que nous devons intégrer si nous voulons faire une différence dans le VIH ou avoir un impact sur la pauvreté. Mais une des choses que Peter a dit, c'est critique. Ces types de problèmes sont des problèmes à long terme. Donc si nous y pensons uniquement comme des choses que nous voulons résoudre rapidement et ensuite continuer au-delà, on n'aura pas l'impact désiré. Donc pour avoir un impact sur la pauvreté, nous savons que ça c'est difficile, c'est du travail difficile, mais c'est à long terme. D'avoir un impact sur le VIH et d'autres problèmes majeurs qui sont dirigés par l'inégalité sociale, je crois que nous devons nous assurer que nous serons là à la longue et que nous pourrons regarder ces choses-ci de manière intégrée et de ne pas les prendre en tant qu'une chose ultime. Donc merci et bonne chance dans votre nouveau rôle. Marc, ce qui nous a impressionné, c'était pas seulement votre leadership clinique et scientifique, mais également le politique cette semaine. Et votre honnêteté, votre courage, dans les discussions d'un manque de leadership dans nos pays hôtes, dans cette conférence. Que croyez-vous que les pays riches du monde peuvent faire plus pour démontrer leur engagement, pour traduire la réaction pour qu'ils puissent réagir à ceci? On a besoin de plus de leadership, on a plus le besoin du leadership que les gens puissent parler plus du VIH sur un des problèmes directeurs de la journée. Nous trouvons que trop souvent l'ordre du jour du VIH s'est mis de côté par une bombe qui explose quelque part dans une gare de train. Et malgré le dommage que cette bombe fait, c'est encore très mineur en comparaison au nombre de personnes qui vont mourir cette même journée à cause du VIH-Sida. C'est presque comme si l'heure du jour du VIH-Sida est devenu vulnérable lui-même à presque tout ce qui se passe à travers le monde. Et je trouve que ceci est très triste. J'aimerais avoir des réponses sur comment on peut garder le VIH-Sida sur les premières pages à travers le monde quotidiennement. Une partie du problème, bien sûr, c'est la fatigue. Mais je crois que nous devons trouver des façons de surpasser ceci. Mais je voulais vraiment faire un autre point que je ne sais pas si ça a été adressé dans ce panel. Moi, je suis optimiste et moi, je regarde l'avenir. Peut-être parce que je fais du travail dans un laboratoire et j'essaie d'adresser des problèmes qui, espérons, aboutiront dans des meilleurs médicaments. Moi, je vois deux grands développements vers l'avenir. Je vois tout d'abord que nous ayons l'accès aux examens de VIH-Sida dans une période de temps très courte. Et je crois que ça vraiment, nous aurons l'occasion de changer, donnera l'occasion de changer la perspective mondiale. Certaines de ces choses-ci ont vraiment une sensibilité vraiment exquise. Et imaginez-vous être dans un bureau de médecin pendant 15-20 minutes avant de recevoir l'examen, au lieu de dire revenez dans 3 semaines pour voir si vous êtes positif. Ça, c'est une situation atroce que les gens doivent gérer maintenant. Donc, si nous pouvons faire un 180 degrés sur ceci et puis leur donner le contact, un rendez-vous médical très court. On aura fait des progrès ici dans les pays riches du monde, mais également dans le monde développé où le problème est plus urgent. Et je suis d'accord avec Dr. Fauci, les nouveaux médicaments qui sont là vraiment paraissent formidables. Et s'il y avait du temps, je pourrais que Dr. Fauci nous dise s'il pense que certaines de ces nouvelles drogues, ces nouvelles médicaments auront une occasion de donner une bonne différence pour l'avenir. Parce que c'est pas seulement des bons antirétroviraux, mais ils vont également avoir un effet sur l'efficacité du VIH pour qu'ils soient intégrés dans les réservoirs. Donc ça, c'est vraiment un problème clé que les scientifiques maintenant doivent engager de manière majeure. Donc, je suis optimiste que nous allons vraiment avoir beaucoup de progrès dans tous ces différents aspects. Donc, il ne nous reste plus de temps. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure de ce panel? Je crois que nous pouvons conclure que plus de la même chose, c'est pas assez. On doit changer la façon que nous gérons cette pandémie. Une façon différente de faire les sciences, une façon différente de diviser les politiques, une différente façon de parler avec les uns avec les autres, de se respecter les uns les autres, de créer plus de valeur, créer une société authentique, inclusive. Ça doit être le test Litmus pour Mexico. Merci pour être là pendant l'heure du dîner. Merci au panel. Bon voyage. Aimez aimablement.